1h en France, Denis Farrou, Frédéric Le Ternier.
Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour Denis Farrou.
Bonjour Frédéric Le Ternier.
Aujourd'hui, on découvre un canyon sous-marin, le Gouffre de Cap-Breton. Ensuite, on va tester des recettes durables élaborées par un chef avec WWF. Et puis, on va s'essayer au patchwork dans le massif des Vosges. Le premier invité d'une heure en France est en Ariège.
C'est le maire d'un village de 700 habitants du département qui ne se représentera pas, fatigué par les incivilités, les agressions. Alors que le gouvernement échange avec des élus en ce moment sur le sujet, à l'heure du déjeuner.
Et on commence par les infos de ce jeudi 12 septembre, c'est avec Simon de Faucompré. Bonjour Simon.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous.
On en sait un petit peu plus sur la réforme des retraites.
Le Premier ministre Édouard Philippe a détaillé le calendrier tout à l'heure dans un discours à Paris. Bonjour Nicolas Ballu.
Bonjour Simon.
Alors qu'est-ce qu'on doit retenir de ces 40 minutes de discours?
Alors on a quelques confirmations déjà. Le projet de loi doit être voté avant l'été 2020. Pas plus de précisions, avant ou après les élections municipales, ça on ne sait pas. Autre confirmation, le nouveau système ne concernera que les retraités nés après 1963. Les droits acquis seront conservés à 100% et la totalité du système ne sera appliquée qu'en 2040. Le Premier ministre s'est surtout attaché à faire passer deux messages. On a le temps, nous ne sommes pas dans l'urgence et la réforme n'est pas écrite.
D'accord, et comment ça se traduit du coup?
Alors ça se traduit par une nouvelle série de rencontres avec les partenaires sociaux, c'est-à-dire dès la semaine prochaine, des discussions de ce que doit être le système en général, les conditions d'ouverture des droits à la retraite.
C'est là qu'on parle de l'âge pivot ou bien de la durée de cotisation.
Voilà, exactement. Comment également va fonctionner la transition des régimes particuliers vers le régime général. Il y aura d'ailleurs des rencontres avec tous les régimes spéciaux de retraite. Concernant l'équilibre financier du système, le gouvernement va demander la semaine prochaine au Conseil d'orientation des retraites des prévisions à 10 ans et un avis sur les mesures à prendre sur le sujet.
Et qu'en est-il de la consultation citoyenne?
Alors, des débats locaux et une plateforme internet, la consultation démarre avant la fin du mois.
Voilà, c'est tout. Merci Nicolas Ballu.
Plusieurs syndicats remontés contre ce projet de loi annoncent une grosse grève à la RATP demain.
Et l'action va perturber pas mal de lignes en Île-de-France. De France, les détails sur francebleu.fr.
Sébastien Lecornu, ministre des collectivités territoriales, déjeune en ce moment avec une douzaine de maires.
Des maires tous victimes d'agressions ou d'incivilités ces derniers mois. Aujourd'hui, demandent davantage de soutien de la part de l'État.
Pour certains, c'est trop tard. Ils jettent l'éponge et ne se représenteront pas, comme le maire d'un village de l'Ariège, fatigué de la violence physique ou verbale. Il sera avec nous dans un instant.
Et d'ailleurs, il n'est pas le seul. Un maire sur deux déclare ne pas vouloir se représenter aux élections municipales de mars prochain. Formation tortue du gouvernement autour de Richard Ferrand. Mis en examen cette nuit pour prise illégale d'intérêt, le président de l'Assemblée nationale ne voit aucune raison de démissionner.
Et c'est aussi l'avis de plusieurs membres du gouvernement qui l'ont vite assuré de leur soutien.
Et jusqu'en haut lieu, hein, puisque Richard Ferrand a la confiance du président de la République lui-même, Julie-Marie Lecomte.
Oui, Richard Ferrand a parlé avec Emmanuel Macron dès hier soir à l'issue de l'audition et le président de la République lui a réaffirmé tout son soutien selon son entourage, soutien public assumé par l'Élysée. Emmanuel Macron garde toute sa confiance en Richard Ferrand, abonde la porte-parole du gouvernement. Sibeth Ndiaye salue un homme loyal, droit au parcours politique exemplaire. Bref, la Macronie fait bloc avec un argument clé, la présomption d'innocence, argument repris par tous les ministres interrogés ce matin sur les plateaux de radio et de télévision. Gilles Legendre, le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée, en avance un autre. La nécessaire stabilité des institutions dans une société judiciarisée. La majorité fait bloc, mais l'opposition appuie déjà là où cela fait mal. La probité était au cœur des promesses présidentielles de 2017. Les donneurs de leçons se retrouvent piégés par celle qu'ils infligent à la terre entière, attaque Sébastien Chenu, le porte-parole du Rassemblement National. Chez les Républicains, on estime que la décision de se maintenir est intenable. Pour Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, comme pour Nicolas Dupont-Aignan, le patron de Debout la France, Richard Ferrand doit démissionner.
Et c'est aussi l'avis de l'association Anticor qui a porté plainte il y a 2 ans. Elle s'est constituée partie civile dans cette affaire. 1,5 million d'enfants meurent chaque jour dans le monde faute de vaccins, rappel de l'Organisation Mondiale de la Santé aujourd'hui. Pour balayer les idées reçues sur les vaccins, elle organise un sommet mondial à Bruxelles toute la journée. Il faut mieux informer les gens sur la fertilité, l'un des points où tout le monde est d'accord à l'Assemblée, en plein débat actuellement sur le projet de loi bioéthique, accompagné sur la grossesse, faire face aux perturbateurs endocriniens. Un projet de loi doit être proposé dans 12 jours. Paris, Lille, Grenoble, Nantes et Clermont-Ferrand annoncent aujourd'hui bannir les pesticides.
Rien de plus qu'un coup de com' pour Elisabeth Borne.
Ouais, la ministre de la Transition écologique rappelle ce midi que l'utilisation de pesticides est déjà interdite dans les espaces publics depuis bientôt 3 ans. Mais ça ne concerne pas les espaces verts des propriétés et entreprises, comme la SNCF par exemple, grande utilisatrice de glyphosate pour nettoyer ses voies. Vous savez ce qu'on dit souvent des enfants, Frédéric Denis ?
Oui, ils sont pénibles. Non,
oui, plein de choses. J'allais dire la même chose.
Plein de choses, mais on dit aussi qu'ils disent toujours la vérité.
C'est vrai.
Nous aussi, du coup.
Eh bien, sachez que 93% d'entre eux voudraient bien que les adultes les écoutent un peu plus souvent. Constat d'un sondage Ipsos pour le Secours Populaire.
Sondage qui partage un autre chiffre plein d'espoir.
Oui, ça fait plaisir. 8 enfants sur 10 disent vouloir s'engager pour aider les gens pauvres ou dans le besoin. Messieurs les enfants, bravo. Et un petit message d'encouragement à notre équipe tricolore de volleyball, l'Euro. Commence aujourd'hui dans 4 pays, dont la France. Les Bleus affrontent la Roumanie ce soir à 20h45.
Et les 3 autres pays, c'est la Hollande, la Slovénie et la Belgique. Et on leur souhaite autant de succès que les basketteurs.
Évidemment, qui ont cartonné hier en battant les États-Unis.
Non, je crois qu'on est complet là,
on
sur
est
les
bon.
Infos.
Bah bon. Écoutez,
vous revenez demain,
ravi que vous le disiez en tout cas. Et à demain, si vous
voulez bien. Bon après-midi. Au revoir, Simon.
FranceBleu.fr. Tout France Bleu. Quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur francebleu.fr. France Bleu M, Pascal Obispo.
Avant que l'on se fane, allons-en, allons-en.
En fan, Pascal Obispo, un coup de cœur France Bleu.
La météo avant l'invité, Frédéric Le Tournier.
Au sud d'un axe de Nantes à Orléans jusqu'à Belfort, la journée se déroule sous un ciel bien dégagé. Plus au nord des Pays de la Loire vers la Bretagne, de la Normandie vers les Hauts-de-France, de l'Île-de-France vers le Grand Est. Après les averses de la matinée, le ciel va laisser place à de belles éclaircies cet après-midi. Mais il va à nouveau se charger ce ciel en fin de journée par les côtes de la Manche. Il va faire chaud les prochains jours, ça commence déjà à grimper. À Lille, il fait 23, à Paris 25, à Dijon 26, à Bordeaux 25 également et à Nîmes 31 degrés cet après-midi. L'invité du Nord en France est le maire d'un village de l'Ariège qui jette l'éponge. Il ne supporte plus les agressions en tout genre des élus.
Une douzaine de maires victimes d'agressions déjeunent avec le ministre Sébastien Lecornu en ce moment pour essayer de trouver une solution. Bonjour Francis Bois.
Oui, bonjour.
Vous êtes le maire de Saint-Ibars, un village de 700 habitants en Ariège. Vous avez été victime de quel genre de violence vous-même ?
Oui, d'abord, merci de m'inviter en direct dans votre émission. Alors j'ai été appelé pour une différend familiale et c'était très violent puisque c'était une maman qui poursuivait sa fille pour lui asséner des coups de couteau. Donc je suis intervenu, je me suis interposé, j'ai réussi à désarmer la maman et j'ai été légèrement blessé à l'avant-bras gauche. Blessure sans gravité.
Oui, c'était un cas unique, isolé en ce qui vous concerne ?
Alors oui, pour ce cas comme ça, oui. Mais j'ai souvent été victime de violences verbales. Ça, c'est courant dans notre fonction. Mais j'ai également été victime de dégradations sur mon véhicule à mon domicile.
Qu'est-ce qui déclenche ?
À plusieurs reprises.
Qu'est-ce qui déclenche, monsieur le maire, ces violences ? Ce sont au départ des tapages nocturnes, un chien peut-être qui se balade là où il ne devrait pas ?
Alors c'est des tapages nocturnes, c'est surtout des divagations d'animaux, le stationnement aussi, voilà. Mais le plus violent, c'est au niveau des violences verbales, c'est avec les divagations d'animaux, où là on se trouve confronté à des propriétaires qui ne veulent pas écouter et des gens qui se sentent agressés par des gros matous qui sont en liberté. Et là on a droit à toutes les insultes.
Le projet de loi discuté en ce moment, destiné à valoriser la place des maires, devrait leur accorder le pouvoir de sanctionner par des amendes ceux qui ne respectent pas les règles du bien-vivre en communauté. Ça va dans le bon sens, à votre avis ?
Alors, je ne sais pas ce qui se prépare dans ce projet de loi. Je ne suis pas du tout informé pour l'instant. Moi, dans mon cas personnel, ce que je demande dans ce projet de loi, c'est que dans toutes ces incivilités, il y ait une réponse de la justice. Parce qu'actuellement, toutes ces affaires que l'on peut voir, c'est tous ces gens qui sont acteurs d'incivilité ou de délinquance, ils sont dans une totale impunité.
Vous voulez dire qu'ils ne sont pas arrêtés, pas jugés ?
Non, souvent c'est un sentiment total d'impunité qui règne dans ce pays. Il n'y a pas de réponse judiciaire à toutes ces infractions. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait une certaine sévérité dans ces sanctions, au même niveau qu'on sanctionne l'automobiliste qui fait 2 km de plus à l'excès de vitesse. Il y a 2 poids, 2 mesures dans cette justice. Et moi, si vous voulez, je suis un homme de terrain. J'entends les gens gronder sur ce point en disant, voilà, c'est plus grave de faire un excès de vitesse que d'être un délinquant dans ce pays.
Et c'est vraiment ce qui vous a décidé à jeter l'éponge, à ne pas vous représenter au printemps prochain, ces incivilités, ces agressions, oui, dont vous avez été victime? C'est bien la cause?
Tout à fait. Bon, je suis... J'ai eu une éducation stricte du monde rural, paysan, dont je suis fier, et je ne me reconnais plus dans cette République. Et je vous dirais que même je suis très inquiet pour la suite. Je pense que si rien n'est fait, comme je dis souvent, c'est une bombe qui va nous exploser au visage.
On a bien entendu votre témoignage accompagné d'un désarroi certain, oui, monsieur le maire. Merci, Francis,
oui,
Bois.
C'est vous, merci. Au revoir.
Au revoir. Francis Bois, le maire de Saint-Ibars, en Ariège, à 1 heure à peu près au sud de Toulouse.
1 heure en France. Denis Farrou. Frédéric Le Ternier.
Ce jeudi, on poursuit dans 1 heure en France. On va découvrir le gouffre de Cap-Breton. Alors, il s'agit d'un canyon sous-marin, un phénomène géologique qui a encore bien des mystères à révéler. La 3e journée du gouffre se déroulera ce dimanche. On a absolument voulu en savoir plus.
C'est complètement ouf, cette histoire de gouffre. On va remonter 300 millions d'années en arrière.
Ensuite, nous rencontrons un chef étoilé du nord de la France qui a élaboré avec WWF des recettes durables. De quoi nous inspirer, surtout vous?
Le chef ne travaille qu'avec des ingrédients qu'il trouve à moins de 100 km de chez lui. Florent Laden est dans les Flandres.
Et ensuite, on file dans le massif des Vosges pour découvrir l'art du patchwork, relié aux Amish qui ont résidé dans le Haut-Rhin il y a longtemps.
Au départ, c'est de la couture, hein. À l'arrivée, parfois, c'est une œuvre d'art, les patchwork.
Et 1 heure en France, ça continue en musique, évidemment. Avec Madness, un classique sur France Bleu, Our House. Bon début d'après-midi, il est 13h13.
Where's his Sunday best? Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep. He can't hang around. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street.
Someone tells you that you've got to move
in the middle of our. Father gets up late. The kids to school, sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. In the middle of our street, our house.
simply waste a day away, then we'd say nothing would come between us. Two dreamers. Father wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house. Was our castle and our king. Our house, in the middle of our street. Our house, that was where we used to sleep.
Notre maison, la vôtre, elle est ici sur France Bleu, c'était Madness.
Une heure en France, Frédéric Le Ternier, Denis Farou sur France Bleu.
Dimanche, ce sera la journée du gouffre, la troisième journée du gouffre.
C'est quoi, madame, un gouffre ?
Eh bien, c'est un canyon sous-marin relié au littoral. Celui de Cap-Breton est un exceptionnel phénomène géologique. Grand canyon du Colorado qui s'ouvre à quelques centaines de mètres seulement du rivage.
On est avec celui qui a initié ces journées du gouffre, qui a contribué à le faire connaître et nous, à nous y intéresser.
L'écrivain passionné de la mer, auteur de Demain l'océan, paru chez Albin Michel, est avec nous. Bonjour Hugo Verlhomme.
Bonjour à vous deux.
Qu'est-ce que l'on sait de la naissance, de la création de ce gouffre à Cap-Breton ?
Alors, la création des canyons sous-marins, c'est très complexe parce qu'il y a plein de facteurs qui jouent entre eux. Aucun géologue aujourd'hui ne vous donnera une explication simple parce qu'il faut savoir qu'il y a eu des très hauts et très bas niveaux marins au cours des milliers d'années précédentes. Imaginez-vous qu'il y a seulement 20 000 ans, c'est-à-dire à peu près du temps des grottes de Lascaux, des dessins des grottes de Lascaux, eh bien le niveau de l'océan était 120 mètres plus bas qu'actuellement. Donc, ce qui veut dire qu'à Cap-Breton, on ne voyait même pas l'horizon pratiquement. Mais par contre, il y avait ce canyon, comme vous l'avez très bien dit dans l'introduction, qui est relié au littoral, ce qui est très rare. Moins de 3% des canyons sous-marins dans le monde sont des canyons encore reliés au littoral. La plupart commencent après la plateforme continentale, dans le talus, parfois à des dizaines et des dizaines de kilomètres du bord.
Hugo Verlhomme, ce gouffre, il s'étend sur combien de kilomètres et surtout, il est de combien de mètres de profondeur au plus profond ?
Alors en fait, les canyons, on ne peut les mesurer que avec trois facteurs, à savoir la longueur, la profondeur, la largeur. Mmh. Celui-ci est en forme de long éventail, c'est-à-dire qui commence, comme vous l'avez dit, tout près du bord, à 300 mètres environ, et à faible profondeur, à 40, 60, 70, 120, il descend progressivement. Et il s'étend parallèlement à la côte espagnole sur une longueur de 300 kilomètres. Au bout de 300 kilomètres, il arrive à peu près à la hauteur de Santander, où il se fond dans un angle droit, et il descend dans la plaine abyssale du golfe de Gascogne, qui est à 4500 mètres de fond. Donc on peut dire qu'il commence à 40 mètres et qu'il finit 300 kilomètres plus loin à 4500 mètres de fond.
Ouais, wow. On imagine un petit peu le décor, quand même très impressionnant. Est-ce qu'on découvre encore des nouvelles choses, des éléments sur le gouffre? Sachant que vous faites des tas de conférences quand vous organisez une journée du gouffre, comme ça sera le cas dimanche.
C'est ça, la journée du gouffre qui est organisée par la ville de Cap-Breton et moi-même depuis, c'est la troisième, donc c'est une biennale tous les deux ans. Eh bien, d'année en année, en fait, les gens se réapproprient ce phénomène géologique, ce patrimoine fantastique, parce qu'il y a une biodiversité exceptionnelle qui permet à Cap-Breton d'être le seul port de pêche des Landes. Et en fait, depuis, eh bien, de plus en plus de chercheurs, de marins, de passionnés se penchent sur ce canyon. Il y a même des projets de artistiques, scolaires. Il y a eu des petits romans qui ont été écrits avec des inventions autour du gouffre. Voilà, donc les gens se réapproprient ce mythe qui avait disparu. Qui n'avait jamais apparu en fait, qui était, voilà, il s'agit de rendre visible ce qui est en réalité invisible.
Alors ce gouffre, je vais l'appeler d'ailleurs, hein, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde, ça s'écrit G-O-U-F, le gouffre, doit forcément y avoir des légendes autour de lui.
Eh bien, figurez-vous que non, parce que finalement, on savait qu'il y avait une grosse profondeur. La plupart des gens ici pensaient, tous les gens ici pensaient que c'était une fosse ou une faille. Ils disaient toujours, ah oui, c'est dans la fosse. Or, une fosse ou une faille, c'est pas du tout un long canyon ou une longue vallée. Et donc, ce n'est que récemment, grâce aux scientifiques, et notamment Ifremer, qui est notre soutien indéfectible à chaque fois, on a des grands chercheurs d'Ifremer qui viennent. Notre parrain Jean-François Bourrier est le meilleur connaisseur en géologie du canyon. Il vient chaque année. Et il nous apporte de nouvelles modélisations et on découvre la bathymétrie de ce canyon extraordinaire. extraordinaire et j'ai produit grâce à Ifremer et à des graphistes un grand panneau qui montre entièrement le gouffre de A à Z. Si vous voulez, je pourrais vous l'envoyer, vous la mettrez en ligne et on voit tout dessus. Oui. Et donc on est en train petit à petit de découvrir vraiment la topographie, la biodiversité et donc les légendes, ben, elles sont en train de naître, mais il n'y en a pas précédemment.
D'accord.
Ce qui est extraordinaire, c'est que ce gouffre, c'est quelque chose d'exceptionnel quand même. Vous nous l'avez décrit depuis quelques minutes, mais tout le monde ne connaît pas. D'ailleurs, avec Frédéric, quand on a dit on va faire une émission sur le gouffre, beaucoup nous ont dit tu veux dire le gouffre, quoi. Alors,
oui, oui.
C'est peut-être pas évident pour vous qui êtes dans les Landes et qui êtes un spécialiste du gouffre, mais tout le monde ne connaît pas.
Ah non, bien sûr, mais les gens n'ont même pas conscience qu'il y a des canyons sous-marins, par exemple. Dans le seul golfe de Gascogne, il y a plus de 130 canyons sous-marins. Et donc, en fait, on pense jamais à la topographie sous-marine, parce que le problème de l'océan, moi qui m'en occupe depuis 40 ans à peu près, et même plus, j'ai écrit 30 bouquins sur le sujet, ouais. Eh bien, c'est qu'en fait, la surface est un miroir, et on ne voit jamais ce qui se passe en dessous. Donc, brusquement, là, on est en train de découvrir, grâce au sonar, à balayage latéral, à tous les nouveaux outils dont on dispose, les drones, les satellites, etc. On commence à découvrir des aspects de l'océan qu'on ignorait totalement. Pensez qu'on connaît moins de 10% de la biodiversité et des fonds marins.
Hugo Verlhomme, il y en a qui connaissent bien ce gouffre, ce sont les surfeurs, parce qu'il y a une vague qui est à Osgore qui est provoquée par ce gouffre.
Alors, ils connaissent plus la vague qui s'appelle la Nord et qui d'ailleurs vient d'être choisie pour une étape des championnats du monde de surf, c'est arrivé hier, donc ils se tiendront sur cette vague. Et cette vague est une vague de récifs, contrairement aux vagues de sable à côté, parce que c'est sur une petite falaise, un petit tombant de la tête du gouffre, qui est pas très profond, que se forme cette vague, toujours au même endroit, alors que les vagues de sable se déplacent tout le temps. Donc effectivement, les surfeurs connaissent très très bien cette vague.
Et les pêcheurs aussi, hein.
Alors les pêcheurs se régalent, il n'y aurait pas de pêcheurs ici, on a quand même 19 artisans pêcheurs qui font une pêche d'ailleurs très raisonnée et qui sont des gens vraiment bien, et donc qui n'existeraient pas si le canyon n'était pas là, puisque ce canyon apporte des poissons de roche, des crustacés, et attire toute une faune qui vient pour manger. On a en ce moment une abondance de dauphins absolument incroyable devant Cabreton, qui viennent sans doute manger les chipirons, les petits calmars, les maquereaux et tous ces petits poissons-là, qui pullulent parfois dans nos eaux.
Est-ce qu'il pourrait y avoir des baleines dans le gouffre ?
Mais bien sûr, il y a non seulement des baleines et des dauphins, mais il y a des espèces de cétacés très rares, comme la baleine à bec de Bainville ou le mésoplodon, donc des animaux qu'on trouve pas vraiment ailleurs. On trouve également de temps en temps des requins marteaux, et puis avec le changement climatique, on voit apparaître de plus en plus de poissons tropicaux. On a beaucoup de poissons lune, par exemple, c'est devenu très fréquent, alors que quand j'étais enfant, que je venais ici depuis ma naissance, en fait, et on n'avait pas vu de poissons lune. On a des dorades coryphènes, des espadons, des balistes, toutes sortes de poissons qu'on ne voyait pas avant.
Je suis sûr que vous pensez la même chose que moi, Frédéric. On pourrait parler tout l'après-midi
oui.
des gouffres.
Eh bien, vous êtes les bienvenus. Venez assister à la journée du gouffre à Cabreton dimanche.
Ouais.
Avec, merci beaucoup, en tout
Hugo
cas.
Hugo Verlhomme, auteur de plus de 30 livres sur l'océan, dont le dernier, dont on parlait tout à l'heure, paru chez Albin Michel, Demain, l'océan.
Vous nous avez donné un très bel avant-goût. Merci beaucoup, belle journée. À bientôt.
Vous aussi.
Au revoir.
Au revoir.
Et nous jouons pour une clé USB France Bleu 16 Go. Vous allez pouvoir stocker tout ce que vous voulez là-dessus. Dites-nous qui a réalisé en 1989 le film Abyss avec Ed Harris, là aussi rencontré des créatures étranges. Vous nous appelez au 0810 055 056. Un petit indice, c'est le même qui a réalisé des années après Titanic. Là, à mon avis, vous avez son nom.
Mais est-ce qu'il y avait un gouffre dans l'histoire ?
Alors, je ne sais plus. Ça fait très longtemps que je l'ai vu. Mais en tout cas, il y avait les Abysses, ça c'est sûr. Vous nous appelez 0810 055 056. Vous restez avec nous, hein, on va tester. C'était des recettes durables réalisées par un chef lillois. Il a participé à une opération avec WWF. Et puis après, on va s'initier au patchwork. Mais tout ça, ce sera après Vita et Slimane.
Dis-le-moi si tu te sens seul au milieu de la foule, quand plus rien ne sait toucher ton cœur. Dis-le-moi si ça fait trop mal. On t'a tellement déçu que tu dis qu'avoir mal c'est normal.
Tu le sais, dans la vie on s'est tous plantés. C'est vrai, combien de fois on a dû se relever. Personne n'est parfait, on est tous sortis du chemin. Tu sais, dans la vie, ça va, ça vient. Ça va, ça de sens si tu n'as plus la foi, plus rien à donner. Dis-le-moi, dis-le-moi, si t'as tout essayé, tout tenté, espéré que ton monde change. Tu sais, dans la vie on s'est tous plantés, c'est vrai, combien de fois on a dû se relever. Personne n'est parfait, on est tous sortis du chemin. Tu sais, dans la vie, ça va, ça vient, ça va, ça vient, ça va.
Ils ont sorti un album ensemble, Vita et Slimane, intitulé Versus. Sachez qu'ils seront tournés dans toute la France dès le mois de mars 2020. Et le titre que nous entendions était « Ça va, ça vient ». Bonjour Ludivine.
Bonjour.
Ça va?
Oui, ça va bien. Merci.
Vous êtes au Grand Queville, c'est pas très loin de Rouen, c'est en Seine-Maritime.
Oui, c'est ça, tout à fait.
D'accord, très bien. Et vous, est-ce que vous êtes cinéphile, Ludivine?
Oui, j'aime beaucoup le cinéma, oui.
Donc le film en 1989, Abyss, avec Ed Harris, oui. Vous l'avez vu?
Oui, je connais bien, j'aime beaucoup. J'avais appelé mon chat Abyss, d'ailleurs, grâce au film.
Ah, oh, d'accord.
Voilà.
Et qui l'a réalisé, du coup?
C'est James Cameron.
Mais oui, c'est la bonne réponse. Félicitations. Et est-ce que vous aviez entendu parler du gouffre de Cap-Breton, vous, Ludivine?
Non, pas du tout.
Bon, j'espère que ça vous a intéressé autant que nous.
Oui.
Ça ferait un joli nom de chat aussi. Gouf, viens ici.
Gouf, ah oui, c'est pas mal.
Oui, pourquoi pas, ça y pensait.
Ludivine, cet après-midi, c'est boulot pour vous?
Oui, travail, oui.
Ouais. Ne le dites pas trois fois, ça aura l'air encore plus difficile.
Oui, c'est vrai. Ça va, la moitié est faite déjà.
La moitié est faite, exactement. Oui. On vous fait une énorme bise. Bon courage pour cet après-midi.
Merci beaucoup, merci à vous. J'aime beaucoup vous écouter, merci.
Oh, vous êtes adorable, merci beaucoup Ludivine. On vous envoie la clé USB et des bisous avec. À bientôt.
Bah, c'est super, merci beaucoup, bonne journée à vous.
Bonne journée, au revoir.
France Bleu. Le meilleur des hits en français dans le texte, France Bleu Blanc Hit.
Ce soir, à partir de 20h30, c'est France Bleu Blanc Hit. Une émission 100% chanson française avec vos artistes préférés. Et puis on va beaucoup jouer, s'amuser ensemble. On vous a mis de côté pas mal de cadeaux. Notez le rendez-vous, 20h30 sur France Bleu ce soir.
France Bleu Blanc Hit avec Romain Grimaldi sur France Bleu, 20h30, 22h.
Du 1er au 7 octobre, France Bleu présente le festival d'avant-première CGR Télécable Satebdo avec la chaîne OCS. 7 films événements à découvrir avant tout le monde dans votre cinéma CGR. Avec en ouverture mardi 1er octobre, Gemini Man.
Cool.
Le nouveau film du réalisateur oscarisé Ang Lee avec Will Smith.
T'es qui? Je veux pas te tuer!
Moi je peux alors!
Du 1er au 7 octobre, le festival d'avant-première CGR près de chez vous, un événement France Bleu. Toutes les infos sur FranceBleu.fr.
FranceBleu.fr.
À écouter, à réécouter, à voir et à revoir, à lire et à relire. Tout France Bleu est sur FranceBleu.fr. France Bleu M, Gims et Sting.
Mais tu iras où, 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 si jamais je m'en vais. Ça me rendrait si jamais tu partais. Mais tu iras où, 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 si jamais je m'en vais. Ça me rendrait si jamais tu partais.
Sometimes the moon hides in the clouds so high above me. Her beauty fell beyond my glances. But every morning leaves me wondering.
Rest, Gims et Sting, un coup de cœur France Bleu.
J'ai faim. Qu'est-ce qu'on fait après du coup, Denis ?
On déguste un houmous de blanc de Flandre en tapas ou alors un falafel de lentilles sauce au yaourt.
C'est bien ça, mais ça n'a pas l'air très commun.
Non, c'est pas commun. Ce sont des recettes durables, madame.
Ah oui, alors c'est l'opération de ce chef du nord de la France avec WWF, c'est ça ?
Exactement.
Bon, laissez-en un petit peu pour tout à l'heure, c'est juste après Tien Dao.
Bebop, pieds nus sous la lune, sans foi ni toi ni fortune, je passe mon temps.
Pour des recettes, c'était Étienne Dao sur France Bleu.
Une heure en France, Denis Farrow, Frédéric Le Tournier sur France Bleu.
Quand une ONG et un chef étoilé s'associent pour manger de manière plus intelligente et pas chère, eh bien on tend l'oreille. WWF et l'étoilé au Michelin de Boskop dans les Flandres proposent des recettes durables pour tous.
Oui, des plats simples et de saison qui tiennent compte du coût, de la qualité nutritionnelle et de l'impact environnemental des ingrédients.
On a découvert le chef dans Top Chef, c'était en 2013. Il est avec nous aujourd'hui dans Une heure en France. Bonjour Florent Laden.
Bonjour.
Merci de nous consacrer 3 minutes à un horaire qui n'est pas le plus évident pour vous. Est-ce qu'il faut se creuser les méninges pour trouver bon, pas cher et écolo?
Je pense que pour le français lambda, on va dire, normal, il faut se creuser un peu les méninges. Pour moi, c'est devenu normal, vu que c'est ce que je pratique au quotidien dans mes établissements, c'est-à-dire travailler que des produits locaux. Et ce choix-là est fait en toute conscience et en pleine connaissance de la puissance que ça a, le fait de travailler des produits de chez nous.
Et quand vous dites produits locaux, c'est vrai de vrai. Les plus loin, c'est à 100 km seulement. Donc il y a des aliments et même peut-être aussi des arômes, des aromates que vous éliminez de vos recettes.
C'est ça. Le produit le plus exotique qu'on a chez nous, c'est le sel qui est fait à 100 km de l'auberge, au Cap Grinet. Sinon, on a éliminé les épices comme on a l'habitude de les voir. On ne travaille plus le poivre, par exemple, ni l'amande, ni le chocolat, ni le café.
Mais vous remplacez par quoi, du coup ?
Quand on peut remplacer, on remplace. Après, est-ce qu'il est utile de faire du chocolat sans chocolat ? Est-ce qu'il est utile de faire un steak haché de légumes ? Je sais pas. Mais quand il faut remplacer, on remplace.
Mais et le poivre ? Je suis inquiet pour le poivre.
Alors, on travaille pas de poivre. C'est pas juste pour le plaisir de pas travailler de poivre. Hein. C'est juste qu'en fait, c'est un produit qui traverse la planète. C'est pour finir dans une assiette. C'est un produit qui est fait par des gens qui gagnent que quelques centimes par jour, qui ne sont peut-être pas tous majeurs. Moi, le poivre, je le remplace par de la moutarde que j'ai localement, par du réfort. J'ai un poivre sauvage qui pousse aussi ici, un poivre d'eau.
Eh bien, on en reste sans voix.
On en reste bouche bée.
Florent Laden, racontez-nous quel était le défi de WWF?
On m'a demandé de cuisiner des produits locaux, des produits de saison, avec le moins d'impact possible sur la planète, c'est-à-dire pas trop de protéines animales, et à chaque fois on me donnait des thèmes. Donc là, par exemple, la dernière fois, c'était travailler les céréales et légumineuses, par exemple.
Alors on a noté sur le site de WWF des recettes que vous donnez, comme les œufs marinés à la bière et graines de tournesol germées, ça c'est un plat de résistance, et en dessert du quinoa local au lait d'avoine et ses fraises de saison. Évidemment, l'idée ce n'est pas d'être original, c'est d'être pas cher, écolo et que ce soit bon.
Oui, notre métier avant tout c'est de faire du goût et de faire du bon goût. C'est toujours mieux. Après, c'est vrai que quand on peut porter des valeurs et les mettre en application, parce que c'est bien beau d'avoir des idées, mais il faut encore les mettre en application, c'est encore mieux. Nous, là, c'était ma seule ambition, c'était de montrer que c'était possible de travailler différemment, de cuisiner différemment, parce que je me répète, hein, mais c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Notre principal pouvoir aujourd'hui, c'est notre consommation, c'est la façon dont on remplit notre caddie. Et en tout cas, c'est un pouvoir qui a beaucoup d'impact et qui peut avoir beaucoup d'impact sur le futur.
Florent Laden, on l'entend, vous cuisinez selon la proximité, selon les saisons aussi également, sans doute.
Oui, alors les saisons, je pensais avant, comme tout le monde, qu'il y en avait 4 par an. Ensuite, je me suis mis à cuisiner et je faisais des menus différents toutes les semaines, on va dire. Donc, je me suis dit qu'il y avait 52 saisons. Mais en grandissant, parce que oui, je grandis un peu, je me suis rendu compte en fait qu'il n'y en avait que 2, dans mon cas, dans le nord de la France. Il y a l'hiver et il y a le reste de l'année. Parce qu'aujourd'hui, le mois de septembre n'est plus le mois de septembre qu'on avait il y a 10 ans. Il est toujours beaucoup plus chaud que le mois d'août, par exemple, chez nous, et plus sec. Voilà. Donc on s'adapte aux saisons et surtout avec un grand respect du travail de l'homme qui est notre voisin en plus ici. Donc j'ai des producteurs extraordinaires qui me font des super légumes. Et même sur le papier, un navet c'est moins sexy qu'une courge longue de Nice, ce navet, il a au moins le mérite d'être fait près de chez moi et sans produits chimiques. Donc c'est mon métier de cuisiner que de le rendre sexy ou au mieux glamour.
Et moi, j'ai mis de côté, mais pour cet hiver, hein, mais je l'ai mis de côté d'ores et déjà, le poulet bio saumuré au potimarron poêlé. Ça me fait vraiment envie et je vais l'essayer cet hiver.
Et vous avez bien fait de le mettre de côté parce que c'est une super recette.
Et on a compris qu'avec votre savoir-faire, on allait pouvoir se régaler avec des navets, donc bien joué. Merci beaucoup Florent Laden. On vous laisse retourner à votre activité. Merci encore pour ce moment que vous nous avez consacré aujourd'hui.
Merci, bisous à tous.
À bientôt.
Et vos recettes sont sur le site du Fonds mondial pour la nature, le WWF.
Nous jouons maintenant pour un support de téléphone France Bleu. On va rester dans l'univers de WWF. Ma question est facile. Dites-nous quel est l'emblème, le symbole de WWF. C'est un animal. Vous nous appelez 0810 055 056. Oh, une histoire d'amour compliquée maintenant à venir. C'est Marilyn et John, c'est Vanessa Paradis. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h dans une heure en France.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
quelle histoire! C'est Vanessa Paradis qui nous la chante, c'était Marilyn et John. Et nous retrouvons Mireille. Bonjour Mireille.
Bonjour.
Vous êtes en Ardèche, Mireille?
Oui.
Où ça, en Ardèche?
Je suis pas très loin d'Aubenas.
D'accord.
Uzère.
Ah, c'est à côté de Montréal.
Voilà, oui.
pas le Canada, on est d'accord,
non.
Mireille.
Un des 7 ou 8 Montréal de France.
Voilà.
D'accord, d'accord. Est-ce que ça vous a intéressé, ces recettes durables du chef qui était avec nous il y a quelques minutes dans Une Heure en France? Ça fait réfléchir quand même. Hein.
Oui. Mais de toute façon, tous les thèmes que vous choisissez ont tous un intérêt différent. Mais voilà, oui, c'est toujours très intéressant.
C'est gentil ça, Mireille, ça fait plaisir.
Alors,
merci.
On a fait dans le gouffre, on va faire dans le patchwork. Et au milieu, il y avait des falafels de lentilles sauce au yaourt.
Mireille, un support de téléphone France Bleu, ça peut vous être utile?
Ah ben oui, tout à fait.
Bon, très bien. Alors, dites-moi, quel est le symbole de WWF?
Alors, je crois que c'est un panda.
Oui, bien joué, Mireille. C'est vrai qu'on l'a dans l'œil, hein, ce panda, quand on dit...
Oui, on le voit bien.
Eh oui, ben c'est lui qui vous a permis de gagner ce support pour téléphone qu'on vous envoie tout de suite.
Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup.
Je repense là, Uzère, c'est près de Joyeuse, en Ardèche aussi.
Aussi, oui.
C'est très beau, ce nom de village.
Ah ben oui, moi aussi, j'aime bien.
Mireille, on vous souhaite une très bonne journée en Ardèche, à Uzère.
Merci. Merci beaucoup.
Et on vous dit à bientôt. Merci beaucoup.
Bonne continuation. Au revoir.
Au revoir Mireille, à bientôt. Calvin Harris et Regan Bonneman maintenant. C'est Giant et c'est sur France Bleu. I understood loneliness before I knew what it was. I saw the pills on your table for your unrequited love. I would be nothing. Without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us. Both of us, both of us, both of us. I am a giant. Stand up on my shoulders. Tell me what you see. Cause I am a giant. We'll be breaking boulders underneath our feet. Voilà ce qui se passe quand un très bon DJ et un excellent chanteur se rencontrent. Ils sont tous les deux anglais, ça donne Giant. C'était Calvin Harris et Regan Bonneman.
Une heure en France, Frédéric Le Ternier, Denis Farou sur France Bleu.
Et nous sommes maintenant à 13h51 à Sainte-Marie-aux-Mines dans le Haut-Rhin, dans le massif des Vosges. Car aujourd'hui débute le 25e carrefour européen du patchwork.
L'art de relier des petits bouts de tissu entre eux nous viendrait en partie de la société Amish dont le berceau était dans la région.
Et nous en parlons avec le directeur artistique de l'événement. Bonjour Thierry Pfertzel.
Bonjour.
Première chose, est-ce que c'est difficile à faire le patchwork ?
Pour qui ?
Alors le patchwork, il y a plusieurs niveaux en fait. Si vous voulez du patchwork à haut niveau, comme ceux qu'on expose pendant notre événement, c'est assez compliqué. Sinon voilà, c'est juste de l'assemblage de trois épaisseurs de tissu à la machine ou à la main.
Quand on dit patchwork, on imagine quoi ? Des jetés de lit, mais il y a aussi des tapis, il peut y avoir d'autres
choses.
Alors
à la base, ce sont des dessus de lit. Mmh. C'est ça dans la tradition Amish. Aujourd'hui, ce sont des œuvres d'art qu'on suspend au mur plutôt.
Et on voit également plein de couleurs quand on dit patchwork.
Ah oui, alors à la base, encore une fois, dans la société Amish, ce sont des couleurs assez ternes, ce sont les vêtements qu'ils portent. Aujourd'hui, dans ce qu'on appelle le patchwork et l'art textile en général, c'est très coloré, c'est très varié.
Donc vous nous avez parlé rapidement des Amish, il faut nous refaire l'historique parce qu'on est un peu perturbé. Normalement, on se dit les Amish, c'est les États-Unis.
Alors, les Amish, c'est les États-Unis aujourd'hui, mais la culture Amish est née à Sainte-Marie-aux-Mines. Voilà, c'était Jacob Amman qui a fondé cette culture et cette religion. Et les Amish ont dû partir lors de la révocation de l'édit de Nantes de Louis XIV, et ils ont émigré aux États-Unis.
D'accord, et ils ont laissé cet art de faire du patchwork qui n'est jamais reparti.
Non, en fait, ils l'ont emmené avec eux aux États-Unis, ça s'est développé aux États-Unis. Le patchwork fait partie aujourd'hui de la culture américaine. Et après, ça s'est démocratisé et c'est là qu'on a redécouvert qu'ici, dans le Val d'Argent, à Sainte-Marie-aux-Mines, était née la culture Amish.
D'accord. Et c'est comme ça que vous allez présenter pendant 2-3 jours 1200 œuvres textiles créées par des artistes qui viennent de toute l'Europe, mais aussi d'Australie, du Canada, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, et je m'arrêterai là. Est-ce qu'un patchwork est différent, vraiment différent d'un pays à l'autre ?
Oui, il y a des tendances. Alors, il y a de l'art textile, comme le bojagi, qui se fait beaucoup en Corée, et qui s'applique au patchwork. Donc encore une fois, trois couches de tissu cousues ensemble, qui sont donc quiltées. C'est ce qu'on appelle un quilt aussi. Voilà, donc il y a des influences suivant les pays, les cultures et les endroits où on se trouve dans le monde.
Mais est-ce que dans toutes les cultures, ça partait du point qu'il fallait recycler des tissus usés, qu'on allait en faire autre chose, qu'ils allaient avoir une seconde vie ?
Oui, c'est une chose commune qu'on remarque. Qui s'est fait spontanément dans les sociétés, chez les femmes beaucoup, qui recyclaient les tissus, oui.
Et si vous aviez un coup de cœur, du coup, Thierry Pfertzel, nous décrire comme ça, alors ce qui était anciennement destiné à être sur le lit qui va se retrouver au mur, est-ce que vous pouvez nous décrire un patchwork que vous aimez particulièrement, qu'on se rende bien compte ?
Alors, c'est un patchwork très coloré, avec des matières nouvelles, comme le lutradur qui est utilisé dans le bâtiment, par exemple. Ce sont des fibres qu'on chauffe et qui changent de couleur. Wow. Voilà, c'est des choses qu'on utilise en appliqué sur des patchworks pour les embellir. Voilà, c'est quelque chose de très coloré, de très travaillé et de très quilté. Donc encore une fois, quilté, ça veut dire le fait de coudre les trois épaisseurs ensemble.
Eh ben bravo, parce que pour décrire un patchwork à la radio, bonjour, faut se lever de bonne heure et apparemment vous vous êtes levé de bonne heure.
Bon, bah très bien.
Vous attendez beaucoup de monde pour le carrefour européen du patchwork ?
Ouais, on attend environ 25 000 personnes sur les 4 jours.
Ça fait 25 ans que ça dure.
C'est la 25e édition.
Donc il y a des aficionados du patchwork, ça c'est évident.
Oui, qui viennent du monde entier.
Depuis aujourd'hui jusqu'au 15 septembre, le carrefour européen du patchwork à Sainte-Marie-aux-Mines dans le Haut-Rhin.
Et on a appris beaucoup de choses avec vous qu'on ignorait aujourd'hui. Merci Thierry Pfertzel.
Merci à vous, au revoir.
Bonne journée, bon week-end, au revoir. Une invitation, tiens. C'est pas pour le patchwork, mais c'est aussi une invitation. C'est Louise Attaque maintenant, dans Une Heure en France.
J'ai accepté par erreur ton invitation. J'ai dû gourer dans l'heure, j'ai dû me planter dans la saison. Tu sais, j'ai confondu avec celle qui sourit pas, mais celle qui est belle, bien entendu. Et qui dit belle dit pour moi, tu sais, j'ai pas toute ma raison. J'ai toujours raison, tu sais, je suis pas un mec sympa. Et je merde tout ça, tu sais, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance en moi, tu sais, j'ai pas d'espérance. Et je merde tout ça.
veux, on parle de toi. Si tu veux, on parle de moi. Parlons de ta future vengeance que t'auras toi sur moi, disons entrecoupé de silence. Qu'on est bien seul pour une fois, qu'on est bien parti pour une danse. C'ira pas plus loin, tu vois, j'ai accepté par erreur ton invitation. J'ai dû me gourer dans l'heure, j'ai dû me planter dans la saison. Savoir si on trace un trait, un point dans notre espace. Tu sais, j'ai pas toute ma raison. Tu sais, j'ai toujours raison. Tu sais, j'ai pas toute ma raison. Tu sais, j'ai toujours raison. Tu sais, j'ai pas toute ma raison. Tu sais, j'ai toujours raison. Tu sais, j'ai pas toute ma raison.
La voix de Gaëtan Roussel et période Louise Attaque pour cette invitation sur France Bleu. Une heure en France, c'est pratiquement terminé. Aujourd'hui, Denis, on a appris beaucoup de choses, à commencer par ce que c'est qu'un gouffre.
Voyez-vous, Frédéric Le Tornier, sous le miroir de l'océan à Cap-Breton, il y a le gouffre. Ce canyon sous-marin extraordinaire, c'est la journée du gouffre dimanche dans les Landes.
Les légendes ne sont pas encore écrites, mais ça ne va pas tarder. Et puis il y a les surfeurs qui s'intéressent au gouffre, il y a aussi les pêcheurs, il y a plein de choses à apprendre. En effet, il faut y aller si on peut.
Complètement gouffre.
Ensuite, on a pris des notes pour des recettes durables d'un chef qu'on a connu dans Top Chef et qui a quand même plusieurs restaurants maintenant dans le nord de la France.
Alors dans les Flandres, le chef étoilé Christian Laden cuisine en
Florent,
fonction...
Florent Laden.
Florent. J'ai dit quoi ?
Christian, c'est pas grave,
pardon.
Florent Laden.
Cuisine en fonction de deux saisons, l'hiver et le reste
de l'année.
Qu'est-ce que vous diriez d'un houmous de blanc de Flandre en tapas, de falafel de lentilles sauce au yaourt, deux marinés à la bière et un petit dessert, un quinoa local au lait d'avoine et ses fraises de saison ?
J'ai peur que ça fasse un petit peu trop là quand même, Denis.
C'est un peu trop,
Et puis on a terminé avec le patchwork. Ça, c'était dans le Haut-Rhin.
Alors, c'était un moment, comment dire, très, très coloré, bien assemblé, du cousu main. C'était génial, le patchwork à Sainte-Marie-aux-Mines.
On revient demain à partir de 13h, si tout va bien, Denis.
Demain, on met la main sur un trésor de pièces de monnaie découvert dans la Creuse et étudié pendant 5 ans. Ça veut dire que le secret a été bien gardé. 14 000 pièces, dont certaines du 12e siècle. Ça ne vous impressionne pas ?
Si, beaucoup. À demain.